l'univers. À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
E-U-C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
Sur la mission Euclide, vous avez deux instruments principaux sur le télescope. Le VIS et le NISP qui pour Near Infrared Spectrophotometer, le laboratoire était responsable de cet instrument. Et donc là, pour ma part, j'étais responsable de la structure de cet instrument. Je suis Tony Pamplona, donc je suis ingénieur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Marseille depuis une douzaine d'années. Et je travaille au département d'optomécanique du laboratoire. Donc sur le projet Euclide-NISP, j'étais responsable du développement de la structure principale de l'instrument, ainsi que des tests en environnement vibratoire de l'instrument complet. C'est essentiellement pour étudier la matière noire et l'énergie noire, en particulier essayer de détecter ses effets sur les galaxies en étudiant la lumière d'une certaine façon. C'est un spectromètre essentiellement qui va analyser la lumière grâce à des détecteurs infrarouges de très haute technologie. Là on parle d'un instrument qui va être monté sur un télescope. Et ce télescope va être placé dans un satellite. Et c'est ce satellite qui partira à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, un endroit bien précis dans l'espace, qui s'appelle le point de Lagrange L2, et qui présente des conditions de stabilité optimales pour faire de l'observation. Donc effectivement, cet instrument va être monté sur un télescope. Et donc cet instrument, en fait, il est constitué d'un certain nombre d'ensembles optomécaniques. Donc en fait, quelque part, il y a des parties qui ressemblent finalement à un appareil photo, des successions de lentilles, des lentilles correctrices, on a des filtres, plus précisément des roues à filtres, des grismes. Bon là, c'est déjà des optiques un petit peu plus particulières, des prismes, et à l'arrivée, on a des détecteurs infrarouges qui vont permettre d'analyser la lumière. Donc tous ces éléments, il faut les assembler les uns avec les autres. Et ça va être le rôle et la fonction de la structure dont j'étais responsable du développement, en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est dans l'espace, on va avoir besoin pour pouvoir atteindre les performances demandées par les scientifiques et les opticiens d'avoir des structures d'une très grande stabilité pour l'observation et avant cela des structures qui résistent aux fortes vibrations au décollage de la fusée. Donc on va utiliser des matériaux un peu particuliers. Donc cette structure, elle est en céramique, une céramique un petit peu particulière, qu'on appelle le carbure de silicium. Alors le carbure de silicium, c'est quelque chose qu'on utilise dans l'industrie, hein. Par exemple, certains freins sur les voitures de Formule 1 sont fabriqués en carbure de silicium. C'est un mélange de céramique et de carbone, de silice et de carbone. Donc le carbone pour apporter de la résistance. Donc on va se retrouver avec un matériau qui va être extrêmement rigide, 4 fois plus rigide que l'acier. Donc ça va nous intéresser en particulier pour les vibrations au décollage. C'est un matériau, ce carbure de silicium, qui est extrêmement stable quand on descend en température. Pour des températures extrêmement basses, la structure ne va pas beaucoup se déformer. Le matériau va être dans son état final, donc extrêmement raide et quand même assez solide. On dirait éventuellement qu'il peut être fragile. En particulier vis-à-vis des chocs. Donc si vraiment il subit de gros chocs ponctuellement, ça peut être embêtant, mais sinon c'est un matériau qui est très très résistant. On est parti en 2011 d'une feuille blanche et on a imaginé le design de cette structure de zéro en partant des spécifications techniques que nous ont données les opticiens. On a imaginé une structure qui devait être la plus légère possible, parce que le moindre kilo à envoyer dans l'espace, ça coûte extrêmement cher. La plus rigide possible, présentant toutes les accessibilités nécessaires pour monter et aligner les éléments optomécaniques. Une fois le design terminé, la conception terminée, il a fallu montrer par des simulations numériques, en fait, donc qui permettent de prédire le comportement de la structure dans son environnement. Donc là, on utilise des modèles mathématiques, des modèles de simulation numérique. Donc, il a fallu montrer que la structure allait tenir à ces environnements assez critiques. Et à partir de là, on a effectué un suivi de fabrication, donc chez un fabricant qui se situe à Tarbes, qui est spécialiste dans le domaine, qui travaille beaucoup avec Airbus notamment. Il faut s'imaginer une sorte d'hexapode, une structure à 6 bras, avec aux extrémités 2 plateaux sur lesquels sont fixés les différents modules optiques, donc une caméra, les détecteurs, et donc grâce à ce système, c'est des systèmes qu'on retrouve beaucoup en fait dans notre domaine d'optomécanique, mais pas que. L'hexapode, c'est vraiment un système qui assure une grande rigidité pour une masse minimale. Finalement, c'est un peu le principe des treillis qu'on peut voir partout dans la rue quand on lève la tête, quand on regarde des structures métalliques, on voit des treillis, comme sur les rues, comme sur la tour Eiffel. C'est des systèmes en fait qui assurent un passage des efforts qui est très sain en fait. Quand on a des treillis, eh bien, on voit des barres souvent en triangle, eh bien, les efforts passent de façon axiale dans ces barres. Et en fait, on imagine bien que une barre, si on imagine une barre toute simple, quand on tire dessus ou qu'on la comprime, elle va être très résistante. Si on essaye de la fléchir, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça permet d'éviter tous ces effets de flexion, voilà, qu'on peut comprendre finalement quand on fait un petit peu de méca ou même quand on est dans son garage simplement. Donc c'est finalement un principe assez basique qu'on utilise, avec des matériaux par contre de très haute technologie et vraiment adaptés à ce qu'on fait, quoi. commencé à faire de simples croquis, bien longtemps, on s'est rendu compte qu'on pouvait arriver rapidement à des formes assez sympathiques. Et puis, la forme de l'instrument, alors c'est sûr que je ne suis pas du tout objectif, moi je la trouve vraiment très jolie. Chance de pouvoir réaliser un prototype avant le modèle de vol, donc on appelle de façon un peu barbare le structural intermal model. Donc c'est un modèle qui était au niveau de la structure principale dont on parle là, quasi identique au modèle de vol. Nous l'avons testé en environnement vibratoire, donc on travaille avec le centre spatial de Liège. Donc en fait c'est un lieu qui dispose d'énormes vibrateurs, donc on imagine des sortes de bobines assez imposantes sur lesquelles on va monter le prototype. Ces bobines vont simuler les vibrations au décollage de la fusée, donc ça va vibrer vraiment très très fort. Donc là, effectivement, avec ce prototype, on a eu des trésors d'informations qu'on a pu dépouiller après les tests, qui se sont d'ailleurs très bien passés. Et ça nous a évidemment beaucoup servi pour préparer les tests du modèle de vol. On savait complètement à quoi s'attendre. Donc évidemment, pour le modèle de vol, c'était beaucoup plus critique, car là, on avait tous les ensembles optiques. Donc là, évidemment, pas mal de fragilité dans l'air quand même au niveau de ces sous-ensembles. Et ensuite, de partir, une fois les tests validés, de partir sur la fabrication du modèle de vol dont on a réalisé les tests au mois d'août dernier, en fait, de vibration.
Et il n'y a pas eu de casse.
Une fois que c'est parti dans l'espace, bon, on ne peut plus y faire grand chose, mais en tout cas effectivement là on a terminé nous nos tests d'environnement au niveau de la structure, au niveau des vibrations. Là maintenant c'est des tests thermiques qui se déroulent, et ensuite l'instrument va être livré au télescope, en l'occurrence sur le projet Airbus, qui lui-même va faire des tests avec l'instrument monté sur le télescope, et cet ensemble sera livré ensuite à Thales Alenia Space, qui s'occupe du satellite complet. Quand Thales fera les tests du satellite complet, parce que ça se termine comme ça, eh bien il est possible qu'on ait des demandes particulières, des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises. Donc le suivi va au moins jusque là. Alors après dans l'espace, bon, c'est autre chose. Pas mal de moments où on a dû être bien soudés. Et puis également, effectivement, entre corps de métier, quand on arrive sur des phases d'intégration et d'assemblage, là, finalement, il peut y avoir des moments où, entre guillemets, un peu tout le monde se réunit, parce que tout le monde a besoin d'apporter son expertise. Donc effectivement, sur les phases d'assemblage et d'intégration, il y a eu pas mal d'émulation, effectivement. C'est vraiment un concentré de technologie, de savoir-faire, c'est tout à fait ça, sur quelque chose finalement qui est pas très grand, hein, puisque l'instrument fait environ un mètre de long et on va dire 50-60 cm de large. Effectivement, c'est un concentré de haute technologie et de savoir-faire. Lors de ces derniers mois, l'instrument est au laboratoire et on se dit, quand on le touche, quand on travaille dessus, et dans quelques mois, il sera vraiment très très loin de la Terre. C'est assez simplement ça, c'est déjà assez magique en fait.
le jour du décollage. Et c'est vrai que quand on a passé presque une dizaine d'années sur un projet, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Alors moi, pour ma part, il y aura un certain stress. Je ne sais pas si j'aurai la chance de pouvoir y assister. Il y aura un stress, il y aura un stress.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers, dans quelque chose qui nous dépasse complètement.
Euclide, le métier à tisser l'univers, donne la parole au personnel du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du CNES, impliqués dans la réalisation du spectrophotomètre infrarouge Grand Champ, également appelé NISP, l'un des deux instruments embarqués de la mission spatiale Euclide de l'Agence spatiale européenne. Les chercheurs et ingénieurs que vous entendez ici travaillent principalement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au Centre de physique des particules de Marseille. Cette série d'émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d'Aix-Marseille Université, du CNES et du LabEx au CEVU.